Je dois le faire, je le sais bien. J'y pense tout le temps, ça me prend la tête. Faudrait vraiment que maintenant, je m'y mette. Ça fait des mois que ça dure et que ça s'empile sur mon bureau. Mais franchement, j'arrive pas, y a trop de boulot. Alors je sens terrorisé, grandir la culpabilité proportionnellement à la pile de papier. Là j'ai pas le choix, il faut le faire, parce que c'est pour avant-hier. Je vais démarrer juste après la télé. Je procrastine, je procrastine. Je ne sais vraiment pas comment faire autrement. Oh oh, je procrastine, je procrastine. Je suis l'éminent champion du dernier moment. C'est une vraie maladie, je vous jure, contre ça y a que l'épicure. Et encore ça ne marche qu'une fois sur six. Et ce n'est pas de ma faute si je fais partie des cinq autres qui commencent à bosser vers minuit moins dix. Y a tellement de bonnes raisons pour avancer à reculons dans ce domaine. Moi je suis un grand virtuose. Je travaille que sous la pression, alors y a pas de solution. Je vais démarrer, mais d'abord une pause. Je procrastine, je procrastine. Je ne sais vraiment pas comment faire autrement. Oh oh, je procrastine, je procrastine. Je suis le roi incontesté du juste à temps. Je viens de le faire et franchement, comme à chaque fois je me suis fait procrastiner, c'est bien, mais c'est très fatigant. Ça m'a pris 5 minutes et voilà, ce boulot est fini. Alors que ça fait des mois que j'en dors plus la nuit. Alors cette fois c'est décidé, je me ferai plus attraper la prochaine fois. Promis juré, je m'y mets tout de suite. D'ailleurs je viens de me rappeler, faut que j'écrive à Dédé. Mais là je suis vraiment fatigué, alors... J'hésite. Je procrastine, je procrastine. Je ne sais vraiment pas comment faire autrement. Oh oh, je procrastine, je procrastine. Dans la famille boulot, demandez le feignant. Je procrastine, je procrastine. Je ne sais vraiment pas comment faire autrement. Oh oh, je procrastine. Je procrastine. Ça faisait des mois que je voulais terminer cette chanson.
Bonjour à tous. Peut-être vous aurez reconnu Gaël Cosandé, qui est venu dans cette église faire un concert il y a quelques années. Voilà, il a des chansons très profondes et puis des chansons aussi très profondes comme celle-ci. Je procrastine. Procrastiner, c'est bien, mais c'est très fatigant. Qu'est-ce que c'est la procrastination? C'est une étrange maladie. Est-ce qu'il y en a qui savent pas ce que c'est? C'est un mot un peu bizarre, hein, donc c'est possible. Levez la main. Ah, voilà, il n'y a pas de problème. Alors, on va voir, peut-être vous avez jamais été touché par cette maladie, ou peut-être vous ignorez simplement son nom. La procrastination, c'est la tendance à remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, ou avant-hier pour certains. Alors c'est une tendance qui peut-être vous touche, en tout cas moi ça me touche un petit peu de temps en temps, je sais pas trop pourquoi. Alors c'est pas que j'ai écrit ce message ce matin, hein, voilà. Mais par contre j'ai changé mes pneus hiver la semaine dernière et je suis toujours le dernier du quartier à planter mes tomates. Bon, j'en ai jusqu'en novembre comme ça. Et puis je suis aussi du genre à finir ma déclaration de revenus le jour même. Et quand je le finis une heure avant, je pense que je suis large. D'ailleurs, on peut la compléter encore jusqu'à mardi prochain, si jamais. Peut-être vous n'êtes pas aussi touché que moi, j'espère pour vous. Alors apparemment, au niveau psychologique, il y a plusieurs causes. Vous pouvez trouver toute une série d'articles intéressants sur Internet. Et j'ai lu un article d'un auteur qui signale 5 causes majeures, qui sont variables selon les personnes. La première cause, c'est l'indécision. La deuxième cause, c'est la fatigue, l'ennui, la complexité d'une tâche ou le manque de motivation. qui est causée par un manque de vision. Alors, je ne vais pas m'attarder sur chaque cause de la procrastination. J'ai lu que ça pouvait être aussi lié au perfectionnisme ou à la peur de l'échec. Je ne pense pas que c'est des causes pour moi, mais... En tout cas, vous pouvez lire toute une littérature sur le sujet si ça vous intéresse. Et j'aimerais peut-être juste m'intéresser à la dernière cause, le manque de motivation. Et ce facteur est probablement le pire d'entre tous parce que ça relève d'un enjeu qui est plus important, le manque de vision et d'objectif. Alors on blâme souvent les gens qui manquent de motivation et qui ont tendance à procrastiner en disant qu'ils sont paresseux. C'est d'ailleurs ce que dit un peu la chanson. Dans la famille Boulot, demandez le feignant. Hein. En fait, c'est pas forcément que ces gens-là sont paresseux, c'est peut-être juste parce qu'ils n'ont pas d'objectif à poursuivre, d'objectif clair. Et en fait, le manque de motivation provient souvent du fait qu'on n'a pas de but précis à poursuivre. Et l'auteur de cet article, c'était intéressant, c'est pas un chrétien, mais il cite la Bible justement par rapport à cette cause-là. Il cite Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple dépérit. Alors, il y a d'autres traductions aussi, mais j'aime bien celle-là. Je trouve que ça exprime bien ce principe. Quand on n'a pas de vision pour notre vie, ni de but à poursuivre, eh ben, quelque part, on périt dans l'inaction. Ça, c'est une maladie aussi quand on est adolescent. Hein. Je sais pas, moi, en tout cas, ça m'arrivait. Et puis, comme on poursuit aucun but précis, le matin, on a du mal à sortir du lit et à passer à l'action. Alors on perd son temps un peu sur les réseaux sociaux, devant Netflix, toutes sortes de choses sans valeur au lieu de se concentrer, de rester focalisé. La Bible nous parle également de procrastination à différents endroits et j'aimerais m'arrêter sur quelques versets. Le premier verset, c'est un verset dans l'Ecclésiaste, hein, qui est un livre très profond à méditer. Ecclésiaste 11, verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Alors, vous savez que la Bible utilise souvent des images de la nature pour expliquer certains concepts. Et là, voici ce que dit l'Ecclésiaste. Si vous observez le vent, vous ne sèmerez pas. Et celui qui regarde la tête en l'air, les nuages, ne peut pas s'attendre à moissonner. Et Wesley, un théologien 17e, je crois, commente ce verset de la façon suivante. « Celui qui néglige les travaux nécessaires de semis et de récolte, parce que le temps n'est pas exactement adapté à ses désirs, un perfectionniste peut-être, et ben celui-là perdra sa récolte. Il laisse entendre que les hommes ne feront jamais le bien ici, qui s'exprime par les semis, et par conséquent ne recevront pas le bien dans l'avenir, qui s'appelle la récolte, s'ils en sont découragés par le doute et les difficultés. » Voilà le commentaire de Wesley sur ce verset que je trouve intéressant. Parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, parfois on attend que les conditions optimales soient réunies pour s'atteler à une tâche. Hein, certains disent, les politiciens surtout, l'alignement des planètes. Mais ce n'est pas ce que ce verset semble nous suggérer. Lorsque vous cultivez, il y a effectivement certains travaux à faire au bon moment. Sinon, vous risquez de perdre votre récolte. Mais à un moment, eh ben, il faut prendre le risque et aller planter, même si vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais et que le temps n'est pas idéal. Qui n'est jamais allé dans le Nord-Pas-de-Calais ? Voilà, vous avez raté quelque chose. Donc dans le Nord-Pas-de-Calais, si vous avez vu Bienvenue chez les Ch'tis, vous savez que dès qu'on passe le panneau, il pleut. Bon, désolé les nordistes qui m'écoutent, je suis un nordiste aussi. Voilà, c'est juste pour dire que parfois on attend que toutes les conditions optimales soient réunies, que ça, plus ça, plus ça, plus ça soient réunies, et alors j'irai dans une direction. Ce n'est pas ce que l'Ecclésiaste semble nous dire. Un deuxième point, et ça va faire le lien avec un autre verset de l'épître de Jacques, c'est que Wesley, dans son commentaire, met en lien les semis et la récolte, d'un côté, et le bien. Et je n'avais pas forcément fait le lien en lisant le verset tel quel, mais ça rappelle aussi un autre verset de Jacques, Jacques 4, 17. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Ce verset aussi nous parle en fait de procrastination. Il nous parle d'un cas où nous sommes en mesure, en capacité de faire le bien, mais pour une raison ou une autre, nous ne le faisons pas. Nous le remettons à plus tard. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer une personne et puis de vous dire « Ah, j'aurais dû l'encourager, mais vous vous dites ça après coup. » Moi, ça m'est déjà arrivé. En fait, vous aviez l'occasion de répandre un peu la bénédiction ou l'encouragement et puis, pour une raison ou une autre, vous vous êtes retenu. C'est intéressant de voir un peu ce verset-là dans son contexte. Ce verset vient juste après quelques versets qui parlent de la tentation des richesses et de la présomption dans laquelle on peut facilement verser par orgueil. Je lis à partir du verset 13. Jacques 4, 13. « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. » Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Et verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Ce passage montre deux attitudes. Celle, on pourrait dire, qui consiste à aller plus vite que la musique, à élaborer des plans sur la comète avec une ambition qui est mal placée, une ambition qui est en fait orgueilleuse, avec un certain sentiment de toute puissance. Eh bien, ce comportement présomptueux oublie juste une chose, juste une, c'est que nous sommes des êtres très fragiles. On a pu voir dans cette crise, dont nous avons quelques masques rémanents ce matin, que, voilà, on est bien fragile et nos plans peuvent très vite être contrecarrés par des éléments extérieurs. Et je pense que ça devrait nous inciter à rester humbles et puis surtout conscients que nos succès dépendent de Dieu. La seconde attitude est celle du verset 17. Nous savons faire le bien, mais nous choisissons de réfréner le déversement de cette bénédiction autour de nous. En quelque sorte, nous procrastinons et nous remettons à plus tard le bien que nous pourrions diffuser autour de nous tout de suite. Pourquoi est-ce que nous ferions cela? Est-ce que ça peut être par peur d'être jugé ou que ça soit mal interprété? Vous savez, quand vous êtes trop gentil avec les gens se posent des questions aujourd'hui. Hein, ou est-ce que c'est parce que nous considérons et quelque part nous avons peur que les gens qui vont être réceptifs à notre bien soient en fait pas assez reconnaissants? On attend peut-être trop un merci. Ou alors peut-être on a peur de se faire abuser si on montre trop d'attention. Trop bon. Est-ce que ce sont de bonnes raisons? Alors, il ne s'agit pas de tomber dans un autre type d'addiction qui serait de faire trop le bien. Pensez qu'on peut faire trop le bien, c'est une vraie question. Hein. Je vais vous raconter une petite histoire assez incroyable que j'ai entendu d'une personne qui l'a entendu d'une... Non, j'ai entendu d'une personne qui l'a vécu. Il s'agit d'un monsieur qui habite dans un pays qui se situe de l'autre côté d'un lac pas très loin d'ici. Je vous laisse deviner. Eh bien, figurez-vous que ce monsieur a une addiction assez particulière. C'est celle de dépenser tout son argent pour faire des dons. Alors, si vous êtes impliqué dans une association, venez pas me voir parce que j'ai pas l'adresse de ce monsieur. Mais apparemment, il a dépensé tout son avoir de retraite, hein, son deuxième pilier, et il peut pas s'empêcher de faire des dons, notamment auprès de personnes qui sont aux Philippines, qu'il a rencontrées une fois en Suisse, et qui en fait apparemment ont dû se payer quelques maisons là-bas parce qu'ils abusent pas mal de sa bonté. Apparemment, il se prive même de manger pour pouvoir donner. C'est une véridique, hein, vraie histoire. Et bon, finalement, ce monsieur, alors il fréquente aussi une église et il a accepté de se faire mettre sous tutelle parce que pour éviter de se retrouver sur la paille et de passer tout son salaire en dons. Incroyable, hein? Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un de ce type. Alors, il s'agit pas évidemment pour nous de verser dans ce type d'addiction, mais l'addiction à faire le bien, l'addiction entre guillemets, hein. Voilà, ça c'est un exemple évidemment qui a des conséquences un peu néfastes, enfin pas pour les Philippins, mais la Bible qualifie quand même l'attitude de retenir notre bénédiction autour de nous comme un péché. C'est clair et net. Et si nous sommes en mesure de faire le bien et que nous ne le faisons pas, eh ben Dieu dit que nous ratons la cible, que nous sommes à côté de la plaque. Un peu dur quand même, non ? Alors regardons un peu à la vie de Jésus, et ce sera le troisième verset sur lequel j'aimerais insister. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, verset 4, voici ce que Jésus dit. « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » D'une certaine manière, Jésus parle aussi de procrastination ici. Alors, c'est aussi intéressant de se remettre dans le contexte. Jésus est en train de marcher avec ses disciples, et puis il croise un aveugle, une personne qui est aveugle. Et ses disciples ont une super question à ce moment-là. Jésus, est-ce que c'est de sa faute ou est-ce que c'est la faute de ses parents ? Je ne sais pas si vous auriez pensé à poser cette question. En tout cas, à l'époque, on pensait que le lien avec une infirmité ou être aveugle, c'était lié à un péché. Il nous faut